de Tristan Bernard, un mari pacifique. Chapitre 1 : En retard. Quand Daniel rentra du bureau, après avoir attendu assez longtemps chez le coiffeur, Berthe était déjà en toilette de soirée. Avec une irritation que ne calmait point la présence sur son menton d'un petit bouton rouge, la jeune femme affirma qu'il était près de 8 heures. « Et la carte des capitans, ajouta-t-elle, porte 7h3 exactement. » Daniel essaya de prétendre qu'il n'était que 7h30 et que, lorsqu'on dit 7h3, c'est 8 heures. Vraiment, ce n'était pas gai de se mettre en retard avec des gens qui vous invitent pour la première fois. Monsieur Capitan, un ancien commis de magasin, avait dû sa fortune et son élévation à son air distingué. Toujours trop distingué, semblait-il, pour les positions où il se trouvait. Quand il fut parvenu à la grande opulence, on commença à s'apercevoir qu'il ressemblait à un prestidigitateur hongrois. Tel qu'il était, il impressionnait beaucoup le jeune ménage. Berthe et Daniel avaient été surpris et charmés de cette invitation à dîner. Ils s'attendaient tout au plus à une carte pour le bal. Daniel enleva précipitamment ses vêtements un peu crottés. La femme de chambre était sortie chercher des épingles neige pour le front de madame, et la cuisinière ne savait pas où était l'habit. Daniel se souvint tout à coup qu'il n'avait qu'un bouton de perles pour les 2 boutonnières de son devant de chemise. L'autre bouton avait été perdu, et Daniel portait pour toute sa vie le remords de n'avoir pas attaché toute la garniture avec un fil de soie, ce qui est une précaution indispensable quand on porte des plastrons mous. Il dut se contenter de 2 boutons ordinaires retrouvés au fond d'un tiroir. Mieux valait être modeste et correct avec de la nacre que d'afficher un luxe de perles fines incomplet. Une autre déception, au moment d'enfiler ses chaussures, attendait le malheureux dîneur. La semelle de la bottine gauche était trouée. Il avait bien des bottines non vernies, toutes neuves, avec 2 triples semelles. Peut-on, avec l'habit, mettre des bottines non vernies ? Son ami Julius prétendait, mais était-ce bien sûr, que c'était le chic américain. Il se décida à consulter Berthe et parut dans l'embrasure du cabinet de toilette. « Est-ce que tu crois qu'on peut se mettre en habit avec des bottines non vernies ?» Mais il n'obtint aucune réponse de cette femme irritée et désireuse de sanctionner sa rancune par un mutisme d'une heure au moins. Il prit donc le parti de s'en tenir aux bottines vernies. Il aurait simplement la préoccupation, en croisant les jambes, de placer toujours la jambe droite en dessus, afin de maintenir le pied gauche et la semelle ulcérée en contact avec le tapis. Son habit endossé, son faux col serré un peu trop par une cravate élastique, sa barbe taillée de frais, et l'intérieur de ses oreilles semé de petits poils récemment coupés, il entra dans le cabinet de toilette de sa femme. Il avait un peu chaud de s'être habillé vite et ne laissait pas d'être inquiet, car, sait-on jamais, au moment de partir pour une fête, si on est absolument en règle avec ses intestins. Berthe semblait en être encore au même point. Assise devant sa toilette, une longue épingle à chapeau au bout des doigts, elle en avait toujours à la même mèche qu'elle arrondissait sur son front. Daniel sentit, avec un âcre plaisir, que c'était son tour à lui d'avoir un sujet d'irritation. Mais il le mit sagement de côté pour plus tard, pour ne pas perdre encore un temps précieux. Quelle heure, d'ailleurs, était-il ? Les 3 pendules de la maison, profitant de ce qu'elles étaient chez un jeune ménage, n'avaient jamais marché que 15 jours à peine, tout au début. Un grand discrédit pesait sur la montre de la cuisinière, qui, selon que le dîner était prêt ou non, avançait ou retardait d'une façon invraisemblable. La première indication sérieuse leur fut fournie, quand ils descendirent, par la pendule de la concierge. 8h25. Il faut dire qu'elle avançait de 10 minutes, peut-être de 20. Le trajet était long de la rue Caumartin au boulevard Pereire. Daniel aurait bien voulu choisir un bon cheval, mais Berthe n'était pas disposée à attendre dans le courant d'air de la porte. Il fallut se décider pour une voiture qui fermait mal. Un cocher informe et bastionné de cache-nez inutile effleura de son fouet le doyen des chevaux arqués. On prétend que les chevaux arqués, qui paient peu de mine, sont meilleurs que les autres. Mais ce n'était pas sans doute à propos de celui-là que cet axiome avait pris naissance. Comme Daniel, désireux de guetter les horloges à l'intérieur des boutiques, faisait mine de baisser la glace, la jeune femme eut une petite toux sèche et un regard résigné qui firent entrevoir au cruel mari tout le sombre cortège des bronchites capillaires et des pleurésies. Alors il essuya tant bien que mal la buée des vitres, juste pour apercevoir l'horloge du boucher, qui, au-dessus du petit kiosque où se trouvait la caissière, marquait 8h20 froidement. Et tout de suite après, au fond d'un magasin de mode, une pendule d'aspect gothique, aux chiffres émaillés, n'allait-elle pas jusqu'à annoncer 8h35 avec ses aiguilles contournées? Mais cela, c'était évidemment de la fantaisie diabolique. Daniel ne fut pas rassuré par l'horloge d'un pharmacien qui marquait 7h15, ce qui était d'un optimisme fou. Il eût désiré un mensonge plus plausible. Enfin, le chiffre officiel de 8h23 fut accusé par l'horloge du chemin de fer de l'Ouest qu'on apercevait depuis le pont de l'Europe. Daniel osait à peine se dire que c'était l'heure intérieure et qu'il fallait encore ajouter 5 minutes. S'il eût été seul, il serait assurément retourné chez lui, laissant l'orage, qui s'amoncelait dans la salle à manger des capitans, éclater un peu loin de sa tête. Mais ce n'était pas une chose à proposer à Berthe. Il se borna à dire d'une voix faible « 8h30 ». Elle répondit sèchement « C'est ta faute ». Il ne discuta pas. Plus impartial qu'elle, il reconnaissait que, d'une façon générale, il est difficile de démêler la responsabilité des époux dans un retard de ce genre, où chacun s'autorise, pour ne pas se presser, de la complicité forcée de l'autre. Cependant, le cocher en mitouflé mettait son cheval au pas dans des montées imperceptibles, où il se faisait dépasser par les piétons les plus languissants. Sur le plat, l'allure du pas était remplacée par une sorte de sautillement rétrograde. Daniel, s'il eût été seul, eût pris bravement un autre fiacre après avoir réglé celui-là. Mais avec Berthe, il ne fallait pas songer à des prodigalités pareilles. Enfin, l'on arriva au boulevard Pereire, et le cocher s'arrêta en se trompant de 2 numéros. Il n'y avait qu'à descendre là et à faire 25 pas à pied. Mais Berthe s'y opposa, ce qui donna lieu à une remise en train de tout l'appareil. Dans la maison, une nouvelle perte de temps fut occasionnée par la recherche infructueuse de la corde verticale qui fait monter l'ascenseur. Daniel, sous le regard méprisant de Berthe, alla demander l'aide du concierge. « Ah !» se dit Daniel quand ils arrivèrent sur le palier des capitans. « Pourvu qu'il ne nous ait pas attendus et qu'il se soit mis à table !» Il sonna. Un moment très long se passa avant qu'on donnât signe de vie. Il espéra un instant qu'il s'était trompé de jour. Mais quand un domestique leur ouvrit la porte, ils aperçurent dans l'antichambre un nombre imposant de chapeaux haut de forme. « On est à table ?» demanda Daniel au garçon. « Oui, monsieur, on est encore à table. » Il les introduit dans un grand salon vide, presque éteint, et dont il ranime la lumière. « Encore à table ? Qu'est-ce que cela voulait dire ?» L'instant d'après, M. Monsieur Capitan lui-même arrive au salon après s'être arrêté sur le seuil de la porte pour avaler une bouchée. « Excusez-nous, dit-il, nous sommes encore en train de dîner. » On entend dans sa bouche le bruit sifflant de petits appels d'air destinés à dégager ses dents. « Nous nous sommes mis à table un peu tard. Excusez-nous, répète-t-il. Il les quitte en leur indiquant d'un geste vague les vitrines d'objets d'art. Certainement, en se rasseyant à table, il s'étonnera tout haut que des gens, invités pour la soirée, soient arrivés de si bonne heure. Et les convives auront, grâce à Daniel, cette impression gênante qu'il y a une limite à leur plaisir gastronomique, qu'ils ne mangeront pas éternellement et ne digéreront pas en paix, et qu'on va tant soit peu brusquer le service, pour ne pas trop faire languir les réprouvés du salon. Il y a pourtant dîner, et 7h15 sur la carte, dit Daniel à Berthe. Elle hausse les épaules. Tu le sais bien. C'est vrai qu'il le sait bien. Ils se sont trompés. Elle est bonne, ajouta-t-il avec un accent qu'il veut rendre joyeux. Si elle pouvait rire de tout cela, elle ne rit pas. Elle se mord la lèvre. Elle pleurerait sans doute, sans le sentiment héroïque qu'il ne faut pas se rougir les yeux. « Sais-tu ce que nous devrions faire ? » dit Daniel. « Allons dîner au restaurant. Je n'ai pas faim. » Elle ne fera jamais rien pour arranger les choses. Chaque fois que le hasard mauvais joue des tours à Daniel, elle se met du côté du hasard. D'ailleurs, Daniel est content que sa proposition d'aller au restaurant ne soit pas acceptée. Il faudrait redemander son vestiaire, et c'est bien compliqué. Mais quelques minutes après, voici que Berthe a faim et qu'elle le dit. « J'ai une faim terrible !»« Allons au restaurant !» s'écrie Daniel avec le plus d'entrain possible. Il sort dans l'antichambre qui est vide, il entrebâille doucement une porte qui donne peut-être sur l'office, mais elle s'ouvre sur la salle à manger où le dîner bat son plein dans la lumière et les éclats de joie. Daniel referme la porte. Enfin, un maître d'hôtel vient à passer. Daniel, pour ravoir son pardessus, lui raconte une histoire qui ne tient pas debout. « Il veut profiter, dit-il, de ce qu'il a un moment à lui pour aller voir avec sa femme des parents qu'ils ont dans le quartier. » Le domestique l'écoute d'un air pressé et incompétent. Heureusement que Berthe se ravise. Elle a réfléchi qu'elle se décoifferait et se friperait. Elle préfère se passer de manger. Daniel rentre au salon et tous deux regardent tristement les tableaux et les bronzes. Enfin, on apporte des plateaux couverts de tasses, de petits verres et de flacons. Monsieur Capitan, qui ne confie ce soin à personne, déploie sur la table des boîtes de cigares somptueux qu'il semble sortir de ses manches. Le cortège échauffé des convives envahit lentement le salon. Les messieurs lâchent le bras de leur voisine de table et s'inclinent avec un respect soulagé. Mais monsieur Capitan, inquiet et embarrassé, s'est approché de Daniel. « Il me vient à l'instant un soupçon, lui dit-il. Il y a déjà eu une erreur de commise avec la distraction de mon secrétaire qui a envoyé les invitations. » Ainsi, mon beau-frère a reçu une invitation pour le bal. Il savait heureusement que c'était pour le dîner. Les cartes sont gravées, n'est-ce pas? Et puis, nous avons 3 séries de dîners. On a confondu les séries. Bref, est-ce que vous n'auriez pas reçu une invitation pour le dîner? Non, non, répond Daniel, pour éviter des affaires. Et il regrette aussitôt d'avoir dit non, car il a faim. « Vous m'enlevez un poids, » dit monsieur Capitan en lui tendant une boîte où Daniel, troublé, prend un cigare dont il ne saura que faire puisqu'il ne fume pas. Monsieur Capitan continue sa ronde et présente à tout venant ses cigares comme des occasions exceptionnelles dont il faut se hâter de profiter. Chapitre 2. En partie fine. Au souper des capitans, Daniel et Berthe se trouvèrent à la table de la belle Madame Alfreda et de Monsieur Alfreda, le coulissier. Le père de Monsieur Alfreda n'était pas d'ici, mais lui est un pur parisien. C'est un homme obèse, à la moustache et aux cheveux luisants, aux paupières un peu lourdes. Jadis, quand il passait l'été au Vésiné, Julius et Daniel se moquaient de lui et l'appelaient le baron bouffi. Mais ce sobriquet est oublié, maintenant que Monsieur Alfreda s'occupe de Daniel, lui parle et lui propose même des parties carrées. « Nous avons, ma femme et moi, dit-il, des goûts un peu bohèmes. » Il expose ses goûts bohèmes. C'est de ne pas prendre ses places à l'avance au théâtre, d'y aller comme ça, tout à coup, quand on se sent bien disposé, et de ne pas savoir, en sortant de chez soi, dans quel restaurant de nuit on ira souper. Voilà l'agrément des ménages sans enfants. « Les enfants, c'est charmant, » dit Madame Alfreda, « mais c'est une suggestion. » Nous avons 15 ans de ménage et nous sommes encore de nouveau mariés, dit Monsieur Alfreda. Allons, le jeune couple, quand faisons-nous la fête ensemble? Daniel est confus, confus d'orgueil et aussi de peur. Depuis l'âge où il a cessé de sortir avec ses parents, il a toujours été épouvanté par les parties de plaisir. Quand des amis, des camarades venaient le chercher le soir, il était inquiet, troublé. Il se demandait dans quel endroit joyeux on allait le conduire. Et puis, il n'avait jamais aimé s'engager dans des aventures sans être exactement fixé sur les frais qu'elles comportent. Daniel ne sait pas s'il est avare ou prodigue. Il croit bien ne pas être avare, parce qu'il sent bien qu'il ne peut pas se retenir de dépenser son argent. Mais il ne pense pas non plus être prodigue, car il le dépense à regret. Ses parents lui ont affirmé bien des fois qu'il ne connaissait pas la valeur de l'argent. Il a, au fond, sur la valeur de l'argent, les idées des personnes avec qui il se trouve. Il est économe avec les gens modestes, somptueux avec les viveurs. Malheureusement, il ignore encore le secret de paraître large à peu de frais. Dans les milieux où il est bien porté de dédaigner l'argent, il ne saura pas prouver son dédain par de simples paroles. Il lui faudra recourir à des exemples coûteux. L'incertitude des restaurants de nuit l'effraie. C'est un engrenage terrible. On ne sait jamais jusqu'où vous entraînera l'élégance des gens que l'on traite, l'importance des maîtres d'hôtel, l'affabilité imprévue d'un gérant qu'on ne connaît pas. Va-t-on dépenser 20 francs ou 150 francs? Et la présence de Berthe complique encore la situation. Si elle n'était pas là, Daniel se dirait « Après nous le déluge !» Mais elle est là et surveille. Ce jour-là, au moins, les Alfreda paieront le souper, puisqu'ils doivent dîner chez les Daniel Henry. Le jour de la revanche, quand on fera la partie de plaisir strictement inverse, Daniel n'aura qu'à copier le menu du souper précédent. Pour le dîner chez eux, ils sont tranquilles. Madame Voro est là pour tout organiser. Elle a commandé l'aspic et la glace. Elle leur prêtera son domestique et 2 petites salières en vermeil. Ils ont de l'argenterie toute neuve, des serviettes damassées qu'ils étrennent, et pas moins de 4 couverts à salade, des cadeaux de noces. Ils ne peuvent pas servir tous les 4, mais Berthe en parlera. Vers 7 heures, Madame Voro, qui doit se retirer discrètement avant l'arrivée des invités, appelle son gendre pour qu'il voie l'aspect de la table. Daniel, déjà en habit, est ému. C'est la première fois qu'il reçoit du monde chez lui. Et l'impression d'heureuse fierté qu'il espérait en avoir est abolie par la crainte des incidents imprévus. Sans parler des détails précis qui l'obsèdent déjà. Il n'y a que 2 sortes de liqueurs, pas de sherry brandy. D'autre part, le poisson qu'il a entrevu à la cuisine, n'a qu'un œil, et c'est peut-être vilain. » Enfin, les invités arrivent, et le dîner est mené assez rapidement. La conversation se soutient grâce à deux catastrophes de chemin de fer survenues pendant la semaine, et dont l'une s'est précisément produite sur une ligne où M. Alfreda aurait pu voyager. Daniel parle peu. Il écoute Berthe, qui se lance dans la conversation avec une hardiesse qui le fait trembler, sur des sujets où il la sait peu documentée. Elle s'en tire cependant à son avantage. Le dessert, le café et les liqueurs passent sans encombre. Daniel, qui n'est pas fumeur, a acheté au bureau de tabac deux paquets de cigares, les plus chers qu'il a pu trouver, et les a mis dans une boîte de nickel. Mais M. Alfreda demande la permission de fumer un cigare très long qu'il a dans sa poche. « Si nous ne voulons pas, dit-il, arriver trop en retard, je crois qu'il serait temps de vous préparer, mesdames. » Daniel reste seul avec son invité. Il se repent d'avoir gaspillé pendant le dîner tous les sujets d'actualité. Il pense déjà, depuis un instant, à rembourser le prix de la loge que M. Alfreda a loué l'après-midi aux variétés. Comment va-t-il s'y prendre? Il ne sait pas très bien rembourser. « Nous reparlerons de cela, » dit M. Alfreda. Mais Daniel ne veut plus reparler de cela. L'important est de régler au plus vite la question de la loge, afin qu'il ne subsiste aucun doute, dans le compte des politesses, sur le paiement du souper. « C'est une loge de 50 francs, » dit enfin M. Alfreda. Daniel, qui a préparé dans les poches de son gilet toute espèce de monnaie d'or et d'argent, dépose sa cote-part sur la nappe, non loin de la main de M. Alfreda, qui pianote au bord. M. Alfreda ne semble pas voir ce numéraire. À un moment pourtant, sa main cesse de pianoter, balaye doucement la nappe et fait couler les 25 francs dans la poche du gilet. Puis, cette main monte aux sourcils de M. Alfreda, qu'elle frotte avec véhémence, comme si c'eût été là le geste essentiel, et comme si le reste eût été accompli, chemin faisant, par simple distraction. On arrive aux variétés au milieu du premier acte. Daniel aime beaucoup le théâtre. Julius et lui, jadis, ne manquaient pas un vaudeville. Ils louaient des stalles d'orchestre et se trouvaient là dès le lever du rideau. Daniel savait une ou deux phrases qu'il disait avec la voix de certains acteurs, et c'était à s'y méprendre les jours où il était bien disposé. En compagnie des Alfreda, son plaisir était d'autre sorte. Il suit mal la pièce, préoccupé surtout d'écouter avec un air fin. Il est debout, derrière ces dames, à côté de M. Alfreda, qui reste assis, qui semble penser à autre chose, et qui rit tout de même quand on rit. Daniel rit aussi. Il se dit cependant qu'il serait bon d'offrir à Mme Alfreda une boîte de fruits glacés. Il a oublié d'en parler à Berthe. Il hésite pendant presque tout l'entracte. Quand il entend la sonnette, il sort précipitamment et rapporte une boîte qu'il pose, sans mot dire, sur les genoux de Mme Alfreda. Berthe, heureusement, approuve, car elle appuie cette offre d'un sourire qui n'a rien de forcé. Peut-être n'est-elle pas fâchée de manger aussi des fruits glacés. Après le spectacle, les deux couples, dans des pelisses et des manteaux luxueux, descendent lentement l'escalier du théâtre. M. Alfreda n'a pas encore parlé du souper. Daniel a peur d'avoir mal interprété les intentions du coulissier. Est-ce que tous les frais de la première soirée seraient à sa charge, sauf à M. Alfreda à se rattraper à la prochaine sortie? Enfin, M. Alfreda donne une indication significative en disant à un cocher l'adresse d'un restaurant de nuit. Chacun, en entrant dans le restaurant, se vérifie dans les glaces d'un œil indifférent comme s'il se connaissait à peine. Daniel se trouve bien petit et bien grêle à côté de M. Alfreda. ces dames ont adopté un air froid de personnes habituées à la grande vie. On s'installe et le coulissier prend la carte. D'abord, Daniel et Berthe refusent discrètement tous les plats. Il ne restera bientôt plus à offrir que du pain et du sel. Il n'est pourtant guère possible, sous ces clairs lambris et ces girandoles, de faire un repas de cheminot. Enfin, la tisane de champagne et la viande froide commandées, malgré les résistances, la grande fête commence, dans le bercement de la musique. Quand les tziganes se taisent, M. Alfreda donne à la conversation un tour léger. Il refuse des pickles à Daniel avec un sourire entendu. Berthe est scandalisée et s'amuse beaucoup. M. Alfreda semble considérer le jeune ménage comme un couple de forcenés, avides de retrouver le lit. Daniel proteste faiblement. M. Alfreda raconte des histoires raides que Daniel fait semblant d'entendre pour la première fois. La musique reprend. Les convives ont l'impression d'une vie facile et supérieure. Une digestion un peu lourde ajoute encore à l'air d'autorité du coulissier. Il a posé sur le bord de la table sa main grasse et son cigare. Daniel se sent tout à coup pour ce monsieur et cette dame une vive tendresse et se repent amèrement de s'être jadis moqué d'eux. Il ne les comprenait pas. Ce sont des gens très distingués et très bons. Sa grande ambition est d'étonner un jour M. Alfreda par de belles actions ou des coups de bourse extraordinaires. On apporte l'addition, que le coulissier a demandé, sans qu'on s'en aperçoive, en élevant doucement son cigare. Daniel fait tous ses efforts pour ne pas regarder le total, vers lequel Berthe, ses longs cils baissés, glisse de biais un regard angélique. Cependant, la personne du vestiaire rapporte les peaux de bête où chacun rentre indolemment. « Mes compliments à tous les vôtres !» dit M. Alfreda sur le trottoir. Daniel se trouve ainsi dépossédé du mot « compliment » qu'il comptait employer et forcé de recourir à celui d'amitié qui lui semble un peu familier. Le chasseur fait avancer une voiture de remise que le jeune homme n'ose pas refuser. Il n'est d'ailleurs pas fâché, aux yeux de sa femme, de terminer cette soirée dans le faste. « Tu aurais pu prendre un fiacre, » dit-elle au bout de quelques instants. Il se hasarde à lui demander si elle ne s'est pas trop ennuyée. Elle se contente d'une petite moue ambiguë. « Tout va bien. » Il ne sait pas que la soirée a été bonne pour elle. Madame Alfreda lui a fait des compliments de son chapeau, et un monsieur très chic, au restaurant, n'a cessé de la regarder, ce qui lui a même valu, visiblement, une observation de la dame à qui il offrait à souper. Chapitre 3. Du nouveau. Daniel passait presque toutes ses soirées chez ses beaux-parents, qui habitait à deux pas de chez lui. M. Voreau, qu'on soupçonnait d'avoir une petite amie, était la plupart du temps à son cercle. Mme Voreau, dans le fumoir, travaillait, ainsi que Berthe, à des ouvrages de dames. Quant à Daniel, il lisait le magasin pittoresque qu'il avait trouvé dans une vieille armoire. Mais le plaisir de cette lecture, qui l'intéressait beaucoup, était complètement gâté par l'idée qu'il aurait pu s'amuser autrement et que ce n'était pas la peine de s'être marié pour lire le magasin pittoresque. Il lui était très difficile de passer une soirée tout seul avec Berthe, parce qu'il lui semblait qu'elle s'ennuyait avec lui. Pour la distraire, il eût peut-être fallu lui dire avec plus de persévérance des paroles tendres. Mais Daniel ne pouvait dire, en fait de tendresse, que des mots qui lui sortaient du cœur. Il croyait toujours à l'éternité de ses impressions. Quand il aimait Berthe, il se figurait l'aimer pour la vie. Aussitôt qu'il sentait qu'il l'aimait moins, il s'imaginait que tout était fini et qu'il ne l'aimerait plus jamais. Il n'avait pas encore eu dans sa vie assez de ces alternatives pour s'y habituer, pour faire crédit à son amour et murmurer de confiance des paroles tendres dans les intervalles forcés de ses grands élans de passion. Ces transports étaient d'ailleurs calmés trop vite par des satisfactions trop faciles et trop rapides. Berthe se laissait caresser avec une soumission indifférente. Elle poussait de petits cris quand, en l'embrassant, il lui tirait un peu les cheveux. Et quand il la quittait, après une de ses froides étreintes, il n'emportait aucune de ces images durables qui font vivre un amour par le souvenir. Il aurait pu en souffrir beaucoup, mais il ne voulait pas souffrir. Alors il se réjouissait d'être débarrassé de sa passion, d'avoir reconquis son indépendance d'homme. Vers minuit, ils rentraient tous deux sans se parler. Ils ne se parlaient presque plus jamais, et ne s'en apercevaient d'ailleurs pas. Du temps qu'il habitait chez ses parents, il procédait tous les soirs, avant de se coucher, à une série de manies obligatoires. Vérification de robinet de gaz, de verrou, de recoin d'ombre, en tout une dizaine de formalités. En changeant de vie et d'appartement, il s'en était débarrassé tout d'abord, mais il avait, peu à peu, reconstitué sa collection. Berthe était généralement endormie quand il venait se coucher à côté d'elle. Un soir, il entendit, dans son premier sommeil, une voix douloureuse qu'il finit par reconnaître pour celle de sa femme. Elle se plaignait de suffocation, de mal de cœur. Elle vint, en gémissant, se blottir contre lui. Réveillé tout à fait, il se sentit de suite la compassion tendre qu'on peut éprouver dans la chaleur du lit pour une femme aussi légèrement vêtue. Mais Berthe continuait à se plaindre. Elle disait qu'elle allait mourir. Et Daniel répondait « Non, non, ne dis pas ça !» en pleurant presque. Il se désespérait, étant toujours obligé, pour conjurer le sort, de considérer la moindre indisposition comme le symptôme précurseur d'une maladie terrible. D'autre part, la nécessité d'agir l'affolait. Il fallait traverser deux chambres froides pour aller réveiller la bonne qui couchait au bout de l'appartement. Il y courut les jambes nues, par besoin d'héroïsme, pour ne pas prendre trop soin de lui quand Berthe souffrait, et peut-être aussi parce qu'il ne trouvait pas son pantalon. Il sonna en même temps au sixième pour appeler l'autre bonne et revint près de Berthe en disant « Je vais chercher ta mère. » Berthe répondait « Non, non !» en poussant des cris douloureux. Elle voulait évidemment qu'on dérangeât sa mère, mais que Daniel en gardât toute la responsabilité. Ce qui d'ailleurs excusait cette démarche, c'est que Madame Vaureau affirmait constamment n'avoir pas fermé l'œil depuis 10 ans. Assertion que la complaisance indifférente des auditeurs avait fini par accréditer. Chaque fois qu'on entrait inopinément dans sa chambre, il semblait bien qu'on la réveillât. Mais ce qu'on prenait pour du sommeil n'était qu'une sorte d'assoupissement. Daniel, avant son mariage, s'était bien promis d'être gentil et déférent pour sa belle-mère, afin de ne pas faire comme tout le monde. Mais vraiment, elle l'avait trop déçu. De toutes les personnes de l'entourage de Berthe, c'était elle qui avait subi le plus fort déchet. Daniel s'était bientôt aperçu qu'elle n'avait aucune culture, en dépit de son face-à-main et du livre entamé toujours en évidence dans sa corbeille à ouvrage. Monsieur Vaureau n'était peut-être pas plus brillant, bien qu'il eût fréquenté des gens de lettres, sous l'Empire. Mais lui, au moins, ne se découvrait pas, et gardait d'autre part sa supériorité d'homme d'affaires. Daniel s'était dit qu'il attendrait l'arrivée de Madame Vaureau pour faire chercher le médecin. Mais comme Berthe continuait à se plaindre, il ne voulut pas avoir sur la conscience la responsabilité d'un retard, et il y envoya la cuisinière. Il ne fallait pas songer au médecin de la famille, le docteur Paul Yonguet, qui habitait de l'autre côté de l'eau et était âgé de 79 ans. D'ailleurs, Daniel, qui avait pour ami un jeune interne en pharmacie, n'admettait pas les médecins de la vieille école. Dans la rue même, à 2 ou 3 maisons, habitait un jeune médecin qui était venu une fois, le mois précédent, pour une indigestion de la bonne. À peine la cuisinière était-elle partie que Daniel fut sur le point de la rappeler. Certainement, sa belle-mère lui reprocherait d'avoir fait chercher un docteur. Il lui suffisait d'avoir pris un parti pour en apercevoir immédiatement tous les désavantages. Madame Voreau arriva bientôt, à bonne allure, stimulée alternativement par 2 aiguillons. L'angoisse de la maladie de Berthe et la hâte de maudire son gendre au cas où il l'aurait dérangé inutilement. Elle n'hésita pas, elle, à défier l'inconnu, en affirmant que Berthe n'avait pas grand-chose, et avec un grand air de décision, ordonna de préparer des cataplasmes laudanisés. Mais Daniel, que sa supériorité agaçait, s'écria qu'il ne voulait rien faire avant l'arrivée du médecin. « Alors, pourquoi m'avez-vous envoyé chercher ?» dit Madame Voreau avec irritation. Cependant, Berthe a cessé de se plaindre. « Chut ! Voici qu'elle dort paisiblement, la pauvre belle, avec un calme et un air de santé parfait. Le ciel en soit loué. C'est ennuyeux tout de même d'avoir dérangé ce médecin pour rien. Évidemment, il vaut mieux qu'il en soit ainsi, mais Daniel, sans bien s'en rendre compte, attend encore un petit cri, une minime crispation, pour ne pas avoir l'air trop bête quand le docteur arrivera. Le voici déjà. On entend un pas pressé dans l'antichambre, et il croit peut-être que c'est un cas urgent, très grave. La porte s'ouvre, le voici. C'est un grand jeune homme qui porte une fine barbe en pointe et un grand front, certainement rempli de savoir. « La malade dort, » dit Daniel. « Elle va un peu mieux, mais elle a bien souffert. » Et il se lance dans des explications très longues, dont le médecin, son grand front en avant, attend patiemment la fin. Daniel semble croire qu'avec les méthodes rigoureuses de la médecine moderne, l'omission du moindre détail peut fausser un diagnostic et mettre le malade en danger de mort. Il désire aussi montrer au médecin, par un certain raffinement de langage, par l'emploi de termes scientifiques, qu'il s'était destiné lui aussi à une carrière libérale. Il dit en passant qu'on ne boit chez lui que de l'eau bouillie, fouettée pour la rendre digestive, et pour un tel souci de l'hygiène, attend les félicitations du docteur. Mais celui-ci attend patiemment que Daniel ait fini de parler pour poser 2 ou 3 questions précises en s'adressant à Madame Voreau. « Elle a dîné à 7h30, » répond Madame Voreau. « À 8h-10, » rectifie Daniel. « Vers 11h précises, sa mère, madame, lui a fait prendre du biscuit glacé dans une tasse de chocolat. » Il espère que le médecin va désapprouver Madame Voreau. « Ce n'est pas ça qui a pu lui faire du mal, » dit le docteur. « Est-ce qu'il y aurait du nouveau ?»« Ah, voilà, » dit Madame Voreau. « Il y a des indices, mais nous n'y faisions pas attention. Il y a 2 mois déjà, nous avions cru. Avec elle, ces choses-là peuvent ne rien signifier du tout. Ça pouvait être ça, comme ça pouvait ne pas être ça. » « Il est probable que cette fois, c'est ça, » dit le docteur. « Elle a eu des nausées ?»« Oui, docteur, » dit Daniel avec empressement. « Des nausées très violentes. »« Elle en aura encore, puisque c'est son premier enfant, » dit le docteur. « Les phénomènes de cet ordre sont beaucoup plus caractérisés chez une primipare. »« Une enfant si jeune, » dit Madame Voreau. Comme si on ne pouvait pas la laisser tranquille encore 1 an ou 2. Au fond, elle est contente. Et puis, c'est quelque chose à annoncer à Monsieur Voreau. Et si elle souffre, ajoute le docteur, vous lui mettrez un cataplasme avec du laudanum. C'est ce que j'avais déjà demandé, dit Madame Voreau. Mais il paraît que je ne sais pas soigner les malades. « Je vais vous faire une ordonnance pour le laudanum, » dit le docteur. à moins que vous n'en ayez dans la maison.
Nous en avons, dit Daniel troublé. C'est-à-dire, je crois que c'est de la teinture d'iode.
Le docteur, son ordonnance écrite, va partir. Mais il faut profiter de ce qu'ils l'ont sous la main. Daniel, qui avait l'intention de prendre une purge, lui demande conseil. Il se plaint aussi de ce que le poisson de mer lui donne des boutons. Madame Voreau parle de ses vertiges, et la cuisinière est prête à enlever son corsage pour montrer un clou qu'elle a sur le bras. Le docteur parvient à gagner la porte. Daniel, un bougeoir à la main, descend un étage avec lui. Peut-être a-t-on à lui faire une recommandation spéciale. En remontant, il craint d'avoir pris froid dans l'escalier. Le ciel est bien capable de lui envoyer une bronchite. Et s'il allait laisser une jeune veuve et un petit orphelin? Il prend en toute hâte une cuillerée de sirop d'iacode, qu'il regrette d'avoir avalé, car il n'y a pas longtemps qu'il a mangé, et il lui semble sentir son chocolat sur l'estomac. Dans la chambre de Berthe, il trouve Madame Voreau en train de compter des mois sur ses doigts.
« Ce sera pour janvier, en plein hiver, » dit-elle en hochant la tête.
Décidément, elle est très contente au fond. Daniel se sent attendri. Il lui semble qu'il y a un lien entre Madame Voreau et lui. Il pense qu'il faut peut-être dire quelque chose de gentil, mais ça lui est bien désagréable. C'est alors qu'une sorte de démon intérieur le force à embrasser Madame Voreau, comme une mortification que le destin lui impose, dans l'intérêt de Berthe et de l'enfant futur. Il se penche dans l'obscurité, il n'embrasse que des cheveux, et Madame Voreau ne s'en aperçoit pas. Mais le baiser doit compter tout de même.
Chapitre 4. Chef du contentieux. Daniel était très fier à l'idée qu'il allait avoir un enfant. Il avait craint un moment de ne jamais être père, sans raison sérieuse, il est vrai. Mais il lui suffisait d'imaginer une éventualité ennuyeuse pour la craindre de toutes ses forces. D'autre part, il était content de n'avoir plus, momentanément, à s'occuper de Berthe, ou plutôt de ne plus souffrir pendant un temps du remords de ne pas s'occuper d'elle. La jeune femme était gravement absorbée par le souci de sa maternité future. Elle restait pendant des minutes entières à fixer un point invisible. Puis elle disait tout à coup « Je crois que je ferais mieux d'installer la nourrice dans le cabinet à robe. » Elle était plus jolie que jamais. Son teint était frais et reposé. Elle était délivrée pour l'instant de cette maladie incurable qui la poussait à chercher sur son front ou sur son menton un petit bouton imperceptible et à le presser entre les ongles de ses pouces jusqu'à ce qu'il prît un aspect affreux. En somme, le seul ennui actuel de Daniel, car il lui en fallait toujours un, était de ne pas se sentir dans la vie une situation indépendante. Il travaillait maintenant dans les bureaux de son beau-père, et le seul résultat appréciable de son mariage semblait être que son farniente de jadis, dans le sombre petit réduit qu'il occupait à la maison Henri, se trouvait désormais changé en une oisiveté plus honorifique et mieux éclairée, en un cabinet de la banque Voreau, dont la haute fenêtre donnait sur le boulevard Haussmann. Comme il avait fait son droit, M. Voreau l'avait chargé du contentieux. Non, bien entendu, des affaires ordinaires, poursuites contre les clients insolvables qui faisaient partie du courant et dont s'occupait un vieil employé de la maison. Daniel, lui, était plus spécialement chargé du contentieux extraordinaire. M. Voreau, n'ayant jamais de procès extraordinaire, ses fonctions de chef du contentieux laissent à Daniel un certain loisir. Aussi lui a-t-on confié la surveillance d'une maison de rapport à M. Voreau, 6 rue de Provence, et qui se trouve louée à bail à de très anciens locataires. La surveillance de Daniel consiste à passer tous les jours chez le concierge pour lui demander ce qu'il y a de nouveau, avec la certitude humiliante qu'il n'y aura rien de nouveau. Daniel a décidé de mener de front ses occupations d'homme d'affaires et ses études de doctorat, encouragé par M. Voreau, qui prétend que le titre de docteur est toujours un beau fleuron pour un jeune homme. Il y a donc sur la table du petit cabinet des livres de droit qui servent à donner une contenance à l'occupant. Trois ou quatre fois par jour, M. Voreau, dont le bureau est à côté, ouvre la porte de communication et amène un client qu'il importe d'isoler. Il dit alors « Daniel, excusez-moi si je vous envahis ». Ce sont les seules paroles qu'il lui adresse, et Daniel en est chaque fois touché. Cependant, quand on demande à M. Henri, le père de Daniel, des nouvelles de son fils, il ne manque pas de dire « Il travaille avec son beau-père, qui le forme ». Et l'interlocuteur de répondre « Alors je suis tranquille, il est à bonne école ». Quelquefois, M. Voreau appelle Daniel dans son bureau et le présente à un client avec qui il est en conférence. « Mon gendre ». Le gendre s'assied droit sur un fauteuil et, les sourcils froncés, semble suivre avec une attention scrupuleuse la conversation, dont il ne parvient pas, dans son trouble, à écouter une parole. M. Voreau répète parfois à Daniel les paroles du client, et Daniel hoche trop fréquemment la tête pour dire « J'entends, j'entends bien ». Il ne savait pas au juste pourquoi M. Voreau l'appelait ainsi. Il en concevait, au hasard, une certaine fierté. Il ne s'était jamais dit que si le banquier le faisait venir auprès de lui, c'était pour qu'une tierce personne quelconque assistât à l'entretien et qu'ainsi le client n'osa plus rétracter les paroles qu'il avait pu prononcer. M. Voreau négligeait de fournir à Daniel des explications de ce genre. Peut-être manquait-il à ce brillant homme d'affaires des aptitudes d'éducateur, et peut-être, tout en se sachant très habile, n'analysait-il pas exactement ses habiletés. Aussi Daniel continue-t-il à se demander ce qu'il fallait faire pour devenir un bon négociant. Son oncle Émile a la réputation d'un roublard. Mais son oncle Émile n'est qu'un petit commerçant. M. Voreau semble être un homme d'affaires d'une plus large envergure. C'est sans doute une autre école. On ne trompe plus les gens. On leur en impose. Mais comment leur en imposer? Daniel manque d'autorité. Dès qu'il s'agit de discuter, il se sent battu d'avance. Il aime mieux, avec un air digne, donner, gagner à son adversaire. Dans les affaires et dans sa vie privée, pour traiter avec les clients et pour diriger son ménage, il voudrait avoir des principes afin de leur obéir aveuglément, paresseusement. Il voudrait s'épargner le choix des parties, qui est une lutte avec soi-même, aussi excédente qu'une lutte avec autrui. Ces réflexions que la solitude du bureau lui inspire ne sont guère encourageantes. Aussi déteste-t-il le bureau. Il s'en évade chaque après-midi vers 3 heures pour passer chez le concierge de la maison de rapport et faire soi-disant quelques courses chez des libraires pour ses études de droit. En réalité, il va à ses occupations clandestines. Il se rend avec de grandes précautions au lieu de ses occupations secrètes et prépare des prétextes tout faits pour le cas où il serait rencontré. Chaque soir, en rentrant chez lui, il tremble à l'idée que quelqu'un pourrait dire à table « On vous a vu là cet après-midi ». Ses plaisirs mystérieux consistent à suivre à l'hôtel Drouot les ventes de tableaux et d'objets d'art et de toute marchandise ayant assez de valeur pour que l'on dresse un catalogue de la vente, sur les marges duquel on ait la joie de pouvoir écrire les prix d'adjudication. Daniel a deux raisons pour être honteux de cette distraction. Elle lui semble n'avoir aucun caractère utilitaire. Excusable peut-être au temps de son célibat, elle ne l'est plus, pense-t-il, maintenant qu'il est chargé de famille. Mais ce qui le détermine surtout à s'en cacher, c'est que personne chez lui ne comprendrait le plaisir qu'il trouve à cette occupation. Comment, en effet, leur expliquerait-il l'attrait spécial que présente pour lui une vente d'objets d'art et de tableaux, puisqu'il n'achète jamais rien, ne désire rien acheter, et qu'il n'aime d'ailleurs ni les tableaux ni les objets d'art? Il ne s'intéresse qu'aux tableaux phénomènes, qui ont atteint un prix inusité. De même, l'annonce d'une catastrophe n'obtient de lui une marque d'horreur ou de compassion que si le chiffre des victimes est un chiffre record. Et il éprouve une déception. Sa consternation est gâtée si le chiffre officiel descend au-dessous de ses prévisions. Un de ses rêves favoris est d'imaginer une vente où un tableau d'un peintre, dont le nom lui importe peu, atteint un chiffre de 15 millions par des enchères successives dont il suit avec tant d'ivresse la gradation qu'il la répète à voix presque haute sur le trottoir. Arrivé à l'hôtel Drouot, il s'installe, quand il le peut, sur une des meilleures chaises. Il sort de sa poche son catalogue, qu'il est allé chercher la veille chez le commissaire priseur. Il tâche de lier conversation avec le plus communicatif de ses voisins et lui demande quel objet, à son avis, atteindra le plus haut chiffre. Si ce voisin est d'aventure un enchérisseur, Daniel ressent une satisfaction et un orgueil très certains quand un numéro lui est adjugé. Il ne manque pas, en tout cas, de lui dire « Je crois que vous avez fait une bonne affaire ». Il a hâte qu'un article soit adjugé. Dès que les enchères traînent un peu et qu'il semble bien qu'elles n'atteindront plus un chiffre imposant. La vente terminée, il se sent très triste, sans but dans la vie. Et il ne lui reste plus que le remords d'avoir pris un plaisir coupable, d'avoir gaspillé le temps précieux qu'il doit employer à assurer l'avenir de sa femme et de son futur enfant. Puis il va voir ses parents, avant de rentrer chez lui. Madame Henri parlait peu de Berthe. Elle s'exprimait sur le compte de Madame Voreau avec une certaine aigreur, mais elle trouvait Monsieur Voreau très aimable et très bien élevé. « Tiens, Monsieur Voreau a vu papa aujourd'hui, » dit-elle un jour à Daniel. « Il lui a parlé de toi. » « Bon, » pensa Daniel, « qu'est-ce qu'il a pu raconter ?» « Oh !» dit Madame Henri, « tu ne peux t'imaginer tout le bien qu'il a dit sur ton compte. Il te trouve très intelligent et très instruit. Il a dit à papa que tu te mettais très bien au courant des affaires. » Daniel vacilla d'émotion. Il ne songea pas un instant à discuter cette bonne opinion de Monsieur Voreau et à lui trouver des explications plausibles. Soit que le banquier se fût exprimé ainsi pour faire plaisir à M. Henri, soit qu'il voulût avoir l'air de s'être occupé de Daniel et que ses conseils eussent porté leurs fruits. Le jeune homme préféra en concevoir tout bonnement un grand orgueil et s'imaginer que M. Voreau, avec son flair d'homme exceptionnel, avait découvert les qualités qu'il avait en lui, dont il doutait quelquefois lui-même, dont il ne pouvait plus douter maintenant. Jamais ce jugement de M. Voreau ne s'effaça de sa mémoire. Il en garda longtemps une certaine suffisance. Chapitre 5. Paternité. D'après les calculs, on attendait l'enfant du 15 au 20 janvier. Daniel voyait venir cette période avec une appréhension très grande. Il n'oubliait pas que sa femme était une prime épars, et que les primes épars souffrent généralement davantage. L'idée d'un malheur possible l'affolait. Sans avoir connu dans sa vie de deuil grave, il s'en était donné un grand nombre de fois les angoisses préventives, et s'était ainsi procuré plus de torture morale que si le destin l'eût frappé de 1000 maux. Comme on arrivait au 15, il ne put supporter l'idée qu'on entrait dans l'époque fatale, et pour se donner du répit, il essaya de se convaincre qu'il ne fallait rien attendre avant le 25. Le 16 au soir, chez Madame Voreau, où elle avait dîné, Berthe poussa un cri, et sa mère dit « C'est ça !» On se hâta de la rentrer chez elle, de l'asseoir dans un fauteuil et de faire préparer le lit. Vers 11 heures, elle eut encore un autre cri, mais il semblait que ce fût par complaisance, pour ne pas se démentir. Il est vrai que beaucoup d'indispositions commencent ainsi, sans qu'on y croie. Le patient lui-même s'imagine qu'il plaisante, et peu à peu, ça devient sérieux. Enfin, elle pousse un cri un peu plus prolongé, qui permet de prendre des décisions. L'importance de Madame Voreau grandit du coup. Sa réputation est faite, d'ailleurs, chez toutes ses amies qui ont eu des couches. Mais aura-t-elle autant d'énergie pour soigner son enfant? On envoie la femme de chambre chercher le médecin accoucheur. Daniel, lui, est chargé de ramener Madame Léonard, la vieille garde-malade. C'est Madame Henri, la mère de Daniel, qui l'a fait retenir. Elle a soigné ses nièces. Elle est vieille, mais elle a de l'expérience, et ses prix sont connus. « Aura-t-elle, se dit Daniel, un souci moderne de l'hygiène ?» Elle habite dans le quartier du Temple, une de ces rues dont on n'a jamais entendu parler, et que le destin invente de toutes pièces, dans les cas graves, pour compliquer les difficultés. La voiture s'arrête devant le 17, qu'on a du mérite à découvrir, car ces maisons étroites mettent leurs numéros où elles peuvent. Daniel tire de toutes ses forces sur un bouton qui n'a pas l'air de sonner. Que va-t-il faire si la vieille porte ne s'ouvre pas? Au bout d'un instant, elle veut bien indiquer, par un bruit léger, qu'elle est ouverte. Mais on ne s'en aperçoit vraiment qu'en la poussant. La loge du concierge, éclairée par une veilleuse, était à l'entresol. Daniel demanda à Madame Léonard. C'était au 5e, la porte en face. À pas prudent, en s'éclairant avec des relais d'allumettes, il gravit des étages capricieux qui étaient tour à tour petits ou très grands. Les recoins sombres abritaient des assassins. Évidemment, dans ces logements misérables se passaient les faits divers les plus terrifiants. C'était sans doute derrière cette petite porte que le sieur C. Ferblantier habitait avec sa mère. D'un caractère irascible, il ne se passait pas de jour que les voisins n'entendissent les scènes les plus violentes. Était-ce cette nuit-là que le sieur C. avait choisi pour tuer sa mère? Et quand il apparaîtrait, un couteau à la main, Daniel pourrait-il se garer à temps? Il arriva au 5e et ne trouva qu'un mur à la place de « la porte en face » annoncée. Mais il vit que sur la gauche, le palier se continuait par un corridor, ouvrant sur un large choix de portes inconnues. Un pressentiment qui ne se trompe point le poussa à frapper à la deuxième de ces portes. Mais le pressentiment s'était trompé cette fois-là, et une petite voix fraîche, tout éveillée, lui dit que Madame Léonard habitait à côté. La garde avait le sommeil dur. Elle apparut enfin, sous un bonnet serré, et sembla d'autant plus âgée qu'elle avait retiré ses dents et que sa bouche était rentrée pour la nuit. « C'est pour Madame Daniel Henri qui est dans les douleurs !» dit précipitamment Daniel. Tout le trajet en voiture avait été employé à préparer cette modeste phrase. Il l'a dit tellement vite pour s'en débarrasser qu'elle ne l'entendit pas et qu'il oublia le texte primitif. Il répéta « Ma jeune femme, je suis Monsieur Daniel Henri, rue Caumartin. » « Ah, c'est pour la rue Caumartin !» dit la vieille femme. « Je quitte justement de ce matin la dame du boulevard Raspail. Mais est-ce que vous attendiez pour si tôt? Je croyais que c'était pour la fin janvier. » « Nous nous trompons peut-être, » dit Daniel. « Il est possible que ça ne soit pas encore ça. »
Elle a eu plusieurs douleurs ?
Dit la vieille femme.
Trois, dit Daniel.
C'est donc que nous y sommes. J'en suis bien aise. Je vais de cette affaire-là pouvoir accepter une garde à Neuilly que je n'avais pas pu rendre réponse. Il me demandait pour les 1er de février.
Elle avait ouvert une valise qu'elle remplissait de divers objets et d'un peignoir en toile.
Daniel, très content de l'avoir trouvée chez elle, avait un moment de détente. La vieille femme traînait un peu à s'habiller, mais c'était un retard dont il n'était pas responsable. Quand elle eut donné au concierge l'adresse de Daniel pour qu'on sût où la retrouver, ils s'installèrent dans la voiture. Il lui demanda sur les accouchements un grand nombre de détails techniques. Il constata ainsi qu'elle savait beaucoup de termes scientifiques et il en fut très satisfait. Il cherchait à lui faire dire que leur accoucheur, le docteur Falix, était un praticien hors ligne. Elle le pensait peut-être, mais elle ne le disait pas. Il se décida à poser la question directement.
« Mais enfin, avec le directeur Falix, il n'y a rien à craindre. C'est un grand docteur. »«
Il connaît son affaire, » dit la sage-femme. « On ne peut pas dire le contraire. »
Il aurait voulu plus d'enthousiasme et ne fut satisfait que lorsqu'elle ajouta
« Sûr et certain que Madame votre dame ne sera pas en mauvaise main. »
Quand ils arrivèrent rue Caumartin, le docteur n'était pas encore là. Cette idiote de bonne ne l'avait pas trouvé chez lui. Elle n'avait pas demandé dans quelle maison il était. Elle s'était bornée à dire qu'on l'envoie dès qu'il rentrerait.
« J'aurais dû y aller moi-même, » dit Daniel.
« Mais une supposition qu'il ne viendrait pas, » dit la garde. « Croyez-vous qu'on ne pourrait pas faire sans lui ?»
Berthe avait de petites douleurs qui revenaient tous les quarts d'heure. La garde pensait que ça pouvait encore aller 2 jours, mais ça pouvait être fini pour le matin.
« C'est une prime épart, » dit Daniel.
Et il ajouta avec condescendance, craignant que le mot ne fût trop moderne pour la garde,
« C'est son 1er enfant. »
Enfin, on entendit un coup de sonnette, et le docteur Falix apparut. Avec sa tête énergique d'officier général précoce, il semblait le grand capitaine attendu pour l'attaque. Il examina rapidement les préparatifs, les serviettes, l'iodoforme, l'ouate hydrophile. Il interrogea la garde et Madame Voreau. Daniel, relégué à l'écart, ne semblait pas compter parmi les combattants. Il faisait partie de ces parasites qui suivent les armées en marche. C'était lui pourtant qui avait ramené la sage-femme. Le docteur était allé examiner la malade. Elle eut en ce moment une petite douleur. Le docteur regarda Madame Voreau. « Nous avons du temps devant nous. Je reviendrai demain matin. » Mais comme il s'en allait, elle poussa un cri déchirant. Le tacticien s'arrêta sur le pas de la porte et dit froidement « Ceci est plus sérieux. » Il ôta son pardessus et s'adressa enfin à Daniel, à qui il demanda de quoi se laver les mains. Daniel se promenait à travers l'appartement, torturé par cette idée qu'il n'était pas assez inquiet et malheureux et qu'il faut aimer puissamment les êtres chers quand ils sont en danger, sous peine de les voir enlevés par le destin. Mais quand il entendit crier Berthe, il se mit à souffrir pour tout de bon. Et c'était d'autant plus intolérable que ce moment douloureux se prolongeait et qu'il se voyait obligé de promettre aux pauvres des sommes de plus en plus fortes. Vers 2 heures, M. Voreau arriva, en tenue de soirée. Il avait appris la nouvelle en rentrant d'un dîner d'actionnaires. L'ascenseur ne marchait pas. Monsieur Voreau avait monté à pied les 4 étages et se servait de son essoufflement pour accuser une certaine émotion. Daniel et lui, sans mot dire, s'installèrent dans le salon de chaque côté de la cheminée. Monsieur Voreau semblait dormir, mais il n'en était rien, car chaque fois qu'il entendait un cri, il esquissait une grimace et faisait d'un air vexé « Ah là 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 !» Daniel se levait de temps en temps pour aller jusqu'au seuil de la chambre à coucher. il ne manquait pas de se trouver sur le passage de quelqu'un ou de mettre le pied dans une cuvette. Il avait un air tristement inutile au milieu de ce monde affairé. Les mœurs des abeilles lui revinrent en mémoire et il se rappela la honteuse oisiveté des mâles. Un moment, comme les cris avaient cessé, il vint jusqu'à la porte. Le docteur avait donné du chloroforme et Daniel entendit une espèce de râle qui l'impressionna beaucoup. Il revint au salon d'où le râle ne s'entendait pas. Monsieur Voreau en profita pour s'endormir tout à fait. Daniel, lui, ne voulait pas dormir pendant que sa femme souffrait. Mais comme la lumière de la lampe lui faisait mal, il se dit qu'après tout, il avait bien le droit de fermer simplement les yeux, du moment qu'il restait éveillé derrière ses paupières. Il se vit au milieu d'un grand parc anglais, à la recherche de la garde, dans une voiture qui n'avançait pas. Il sonna désespérément à la porte d'une grille. L'heure du train approchait et il ne pouvait jamais faire en quelques minutes le trajet de Paris à Dijon, où Berthe, à moins que ce ne fût Madame Voreau, était en train d'accoucher. Soudain, il entendit du bruit dans l'appartement et, ouvrant les yeux, aperçut aux persiennes les raies d'un jour d'hiver mal débarbouillé. Il ne reconnaissait plus sa chambre. Madame Voreau ouvrit une porte et dit « C'est un garçon magnifique !» Daniel ne ressentit d'abord aucun plaisir à cette nouvelle, car il craignait surtout qu'on ne remarquât qu'il avait dormi. Monsieur Voreau, qui pendant la nuit avait gagné le canapé, s'était relevé brusquement et, assis au milieu, sa belle barbe grise de travers, regardait autour de lui d'un air de défi. « Vous pouvez venir tout doucement, » dit Madame Voreau. Daniel, en entrant dans la chambre, entendit le cri perçant d'une petite voix nouvelle. Sur les genoux de la sage-femme, le petit garçon remuait ses bras, et Daniel regarda curieusement ses mains toutes neuves, pas encore dépliées. Ses yeux étaient fermés, le nez important tombait sur la bouche, et la tête pointue était recouverte d'un obscur duvet que Madame Voreau avait déjà annoncé comme des cheveux d'un noir admirable. L'enfant était à peine au monde que la sage-femme lui recommandait déjà d'être sage, de se laisser baigner gentiment et de ne pas faire de bruit parce que sa maman était fatiguée. Afin de le familiariser avec la langue française, un peu nouvelle pour lui, elle supprimait de ses discours toutes les gutturales et les lettres un peu rudes. Puis elle prit les deux petits pieds entre trois doigts et lui sucra de poudre d'amidon son petit derrière rouge. Elle l'avait retourné sur le ventre. De ce côté-là, il donnait une grande impression de vigueur. Il avait l'air d'un petit athlète, très râblé, avec son torse serré dans des bandes et ses petites cuisses larges. Cependant, Daniel s'était approché de Berthe et l'avait embrassée sur le front. Elle eut un sourire lassé et son gentil regard des moments de douleur, et dit à Daniel, qui en fut tout remué, « Ta femme a beaucoup souffert. » Elle tenait d'ailleurs, chaque fois qu'elle était malade, à ce qu'il fût constaté qu'elle avait beaucoup souffert. C'était un point sur lequel elle ne transigeait pas, et l'on s'attirait un mauvais parti si l'on prétendait jamais avoir souffert autant qu'elle. Dans les circonstances présentes, elle eut, à l'appui de ses affirmations, le témoignage de Madame Voreau, qui en profita pour jeter un lustre nouveau sur son héroïsme de garde-malade. Bientôt, l'histoire des premières couches de Berthe, qui prit rang parmi les épopées familières de la maison, s'enrichit de traditions successives. On se mit d'accord pour raconter qu'elle avait souffert 48 heures, car on se souvint d'une petite colique éprouvée l'avant-veille et qui fut classée d'office dans les petites douleurs. Puis, divers instruments de chirurgie, tels que le forceps, communément appelé les fers, que le docteur avait apporté dans sa trousse à tout événement et laissé sur la cheminée, se glissèrent peu à peu dans les récits et prirent une part de plus en plus active à l'opération.